Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. L'instant 2, vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité.
Un univers.
Un monde à part.
Partez à sa rencontre.
Prenez le temps d'écouter, de découvrir, de partager. L'instant 2. Par Mélanie Masson
sur Radio Grenouille.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être à l'écoute de Radio Grenouille. Vous êtes dans la toute première édition de l'Instant 2, le nouveau rendez-vous de la rédaction, où chaque mois je vous proposerai de partir ensemble, évidemment, à la rencontre de quelqu'un, d'un univers, d'un nouveau monde, rien que ça. Vous ne vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Installez-vous confortablement. 1, 2, 3, suspendons le temps. La porte est ouverte, il ne tient qu'à vous de la laisser ainsi ou de la refermer à votre guise. Faites comme chez vous, bienvenue dans l'instant 2. Malgré son jeune âge et un regard d'enfant, il a les cheveux poivre et sel, comme on dit, en bataille et pourtant d'une élégance de hérisson. Ça doit être l'effet séducteur de sa mèche désinvolte qui pointe ainsi, comme pour montrer le cap ou le sud. D'abord mime corporel dramatique et élève de Ivan Paciocci, funambule, il a fait la FEA, formation itinérante des arts de la rue, où il rencontre Marcel Pons, avec qui il a le courage et la passion de monter sa propre compagnie de cirque et d'art de rue en 2007. Ex Voto, c'est le nom de cette compagnie à l'image de ces petites statuettes répandues de tout temps à travers le monde qui remercient on ne sait qui pour on ne sait quoi, sans parler, un langage à part. Son langage à lui, c'est l'expression par le corps, c'est une sensibilité sur un fil, un langage mélangeant sans complexe et tout en fraîcheur, italien, français, allemand, néerlandais même parfois. C'est un regard poétique sur le monde, la mise en scène de la vie quotidienne. Je reçois aujourd'hui et je vous présente Pablo Volo, à prononcer tout en douceur comme si, dit-il, c'était des tout petits O. Volo. Bonjour Pablo.
Bonjour.
Tout va bien aujourd'hui ?
Pas mal du tout.
Pas mal du tout. Alors aujourd'hui, au sommaire, un sommaire tissé comme à chaque mois. À travers ce que renvoie mon invité, nous parlerons poésie, bien évidemment, expression, cirque, et bien sûr encore opéra, cuisine, amour, spiritualité. Alors, je vous entends d'ici, vous êtes peut-être en train de vous dire oh, « déjà vu, déjà fait, tout ça », et je vous répondrai « non ». Probablement, je l'avoue, pour vous garder un petit peu à mes côtés pendant près d'une heure et plus si affinité, et pour vous éviter aussi de zapper, comme on le fait trop souvent dans notre monde contemporain, celui de la vitesse. Mais je vous dis cela surtout parce que tous ces sujets, nous en parlerons différemment, à travers les yeux de Pablo Volo. Gestes, pause, regard, silence, respiration, les mots ne disent pas tout. Allez, on prend le temps, au moins il ne sera pas perdu.
Un moment, s'il vous plaît.
Alors Pablo, on va commencer par le commencement. Vous avez d'abord été mime, donc parlons du mime, hein, ce personnage qui est relativement intriguant entre joie et tristesse, entre intrigue et réciprocité. Comment devient-on mime ? Qu'est-ce qui vous a pris de commencer par cela ?
Le mot mime, ça renvoie plutôt à un jeu qu'on fait pour les enfants, mais on ne sait pas trop exactement d'où ça vient. En fait, les origines du mime, ici en France, au 19e siècle, elles sont rattachées à la période où, dans les grands théâtres en France, il y avait la censure. Et on jouait dans les grands théâtres des spectacles de mimodrame sans mots. Et apparemment, il y avait des spectacles tellement éblouissants, tellement beaux que le public, de temps en temps, criait sur la scène, mais il commence à parler. Et donc, la censure, parfois, devait vraiment aller contrôler à ce que dans le théâtre, comme le théâtre du funambule, les mimes restent des mimes et ne commencent pas à parler.
Il y a deux types de mimes, d'ailleurs.
On va dire, en gros, qu'il y a la pantomime classique, et ensuite, il y a celle qui a été fondée par celui qui était mon maître, Étienne Decroux, le mime corporel dramatique, qui a une forme beaucoup plus abstraite, qui donne une priorité au corps avant tout qu'à la gestuelle des mains et la grimace du visage, et qui, elle, a les racines plutôt dans le travail de Charles Dullin, dans le travail qu'a fait Gordon Gregg. Et Étienne Decroux a vraiment fondé une grammaire, a fondé une véritable philosophie du corps, de l'expression corporelle. Et surtout, Étienne Decroux, même si lui-même n'y est jamais vraiment arrivé, voulait absolument arriver à ce que le mime corporel devienne aussi une expression de la parole, qu'un jour la parole se mélange aussi au corps. On n'a pas vraiment de traces sur ce qui était son travail sur ces dernières années, mais on le sait que beaucoup de ces derniers mimodrames travaillaient sur l'idée qu'à un moment donné aussi la parole puisse intervenir.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans le mime ? Pourquoi avoir eu cette idée ? Vous étiez jeune quand vous avez décidé de faire ça ? Ça vous a pris tôt ?
J'avais fait avant du clown, j'avais fait une école de cirque avant. J'avais toujours eu un peu la sensation que la direction pour m'exprimer où je me sentais le plus à l'aise était avec le corps, ou en tout cas surtout pas avec la voix, surtout pas par quelque chose d'écrit. Je sentais que le silence qui m'entoure et travailler dans le silence était quelque chose qui me plaisait bien. Et ensuite, je rencontrais un peu par hasard le mime en faisant l'école Marceau d'abord et ensuite l'atelier d'Ivan Bachok. Et je trouvais dans le mime corporel vraiment tout ce qui m'envers la voix sur une idée que l'on peut vraiment arriver à tout exprimer seulement avec un corps, qu'on peut être autant le marteau, l'enclume, on peut être celui qui dirige le marteau, on peut être tout seul porteur de tout un drame, on peut transposer à travers son corps et le travail et les sentiments tout en étant dans quelque chose de toujours très très physique.
Est-ce que le silence peut davantage parler que les mots ? Différemment, ça c'est certain, mais... Les silences sont parfois gênants, enfin on va dans les relations interpersonnelles quand quelqu'un se tait et ne sait plus quoi dire, c'est une sorte de, on appelle ça un blanc. Donc est-ce que c'est du rien ?
Moi j'ai appris à ne pas du tout mettre ces deux univers très différents. Le silence n'est pas du tout la contraposition du monde parlé. Le silence est vraiment tout un autre univers. Il y a des silences qui sont la gêne, il y a les silences qui sont le blanc, il y a le silence du non-dit, mais il y a aussi le silence de l'entente parfaite, il y a le silence, et là ça mérite vraiment d'être l'éloge du silence, il y a le silence qui dépasse la solitude, qui sont vraiment retrouver une vibration interne qui sort de soi et qui commence à raconter quelque chose. Et ensuite il y a les silences dans lesquels on voit et on entend beaucoup mieux les choses autour de nous. Cette chose qui sont vraiment attachées à nous, qu'on n'arrive jamais vraiment à comprendre et que les mots n'arrivent pas à dire.
Le silence peut donc être une forme de langage, la poésie aussi. Quelle est la place, selon vous, et le rôle de la poésie dans ce monde aujourd'hui, quand même d'une morosité ambiante inquiétante, de crise ? Est-ce que finalement, est-ce que c'est moins important la poésie ?
Le monde n'est pas aussi morose que ça, mais...
Il est un petit peu quand même, un petit peu.
En tout cas, je suis convaincu comme vous que la poésie écrite, soit vraiment la forme artistique la plus directe et la plus belle pour décrire la beauté du monde, pour décrire l'amour, pour décrire les choses, justement, qui sont dans le silence. Pour moi, la poésie est vraiment la première trace qu'il y a juste après le silence pour entendre ce soupir, cette espèce de suspension qui reste. Et la poésie est celle qui arrive vraiment à le faire le mieux. Même quand elle est terriblement poétique, il n'y a rien de plus beau de relire des mots qu'on a écrits il y a un mois ou il y a 10 ans, les retrouver terriblement pathétiques ou absolument irregardables. Et pourtant, on ne les jette jamais. On les garde toujours dans un cahier, on garde toujours ça.
Vous avez un journal intime, Pablo,
J'écris de manière régulière, mais j'écris de plus en plus. Et d'ailleurs, je découvre que j'écris de plus en plus en français. Mmh. Et ce que j'ai commencé à faire régulièrement, ça a été d'écrire mes rêves. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre une certaine régularité aussi, à écrire des phrases un tout petit peu plus entières, enfin, de commencer à mettre ensemble mes... Mais j'ai longtemps eu quand même une relation assez difficile avec l'écriture. Donc, personne ne verra jamais ce que j'ai.
On verra peut-être une prochaine émission, je ne sais pas. Est-ce que, donc je reviens à votre parcours artistique qui est relativement varié, hein. Après le mime, il y a eu aussi de la comédie, du cirque, des arts de rue. Est-ce qu'un artiste doit toujours se renouveler en changeant de discipline, de domaine?
Si c'est un génie, peut-être il n'en a pas besoin. S'il a juste un peu de talent, ce serait bien de se renouveler souvent. Ça, je ne sais pas. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est garder tout le temps une ouverture, une curiosité énorme sur tout ce qui se passe, d'avoir le courage de se remettre en cause et surtout tout ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, tout ce qu'aujourd'hui on trouve probablement pas très intéressant, et puis avoir le courage de temps en temps de se dire peut-être on ne le comprend pas bien, peut-être ça mérite que je me repenche dessus, ça mérite que je le regarde à nouveau, et au bout de 2-3 ans se dire ah bien, et si j'ai commencé à faire ça, et si comment j'ai fait aujourd'hui des choses qu'il y a 2-3 ans je n'aurais d'abord jamais osé faire et dont je disais qu'elles ne me plaisaient pas.
Et ça, comme je quoi, trouve, par exemple
J'ai maintenant un travail photographique à moi que j'assume complètement et qu'il y a 2-3 ans, je n'aurais jamais eu le courage de montrer comme ça. J'ai mon langage corporel, mon langage comme metteur en scène, il s'est affirmé beaucoup plus dans des directions que je n'imaginais pas du tout avant. Et ça me plaît beaucoup de découvrir que je vais dans ces directions-là, qui étaient vraiment inattendues.
Est-ce que vous êtes satisfait généralement de votre travail d'artiste ? Ou de metteur en scène, ou les deux ? Ou est-ce que vous êtes du genre perfectionniste à ne jamais être content du résultat de vos spectacles avec la compagnie, notamment Exoto ?
Je ne suis pas très souvent énormément, terriblement satisfait. Je ne sais pas si je suis un perfectionniste, ça je ne crois pas. Mais je reste toujours évidemment avec une petite frustration de tous ceux qui on aurait pu faire mieux. Je me pose souvent la question, est-ce que c'était vraiment la bonne chose? Est-ce que c'était la chose la plus sincère, la plus juste à faire? Dans le spectacle vivant, on est malheureusement énormément face au problème à qui on s'adresse. Et est-ce qu'on ne commence pas à vouloir séduire les gens qui nous regardent? Ou est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut? Ou est-ce que quand on fait trop ce qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à entrer quelque chose de trop hermétique? Est-ce qu'on donne vraiment le code pour être compris? Voilà, ça c'est des questions qu'on ne résout malheureusement jamais dans cette parenthèse qui est le spectacle vivant qui meurt tout de suite après. On n'arrive jamais à interroger tout le public, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Souvent la parole que nous redonne le public est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout parce qu'il voit des choses qui
et
sont...
Et pourtant, qu'il faut quand même se poser en tant qu'artiste.
Ah oui, absolument, absolument, mais c'est très difficile d'accepter ce qu'il regarde derrière. Moi, je dirais que je redécouvre mon travail souvent un an après, un an et demi après, et c'est que là que je suis vraiment capable d'en faire un bilan, pour moi.
Très bien. À chaque émission, je demande à mon invité de choisir un morceau de musique, une chanson qui lui plaît, qui lui évoque quelque chose, et s'il le désire, il peut m'expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux simplement présenter très rapidement, Pablo, la musique que tu as choisie et que tu m'as amenée aujourd'hui ?
Alors, j'ai amené un des leaders de Alban Berg, du cycle des Altenberg Lieder. Moi, j'aurais aimé amener toute l'opéra Vossek, ce qui n'était pas possible. Donc, j'ai choisi cette courte chanson. C'est pour moi vraiment la meilleure représentation de quelque chose de très moderne, de très, très, très violent et en même temps terriblement poétique, très touchant. Où il y a tout dedans. Et dans le langage lyrique, il y a déjà à moitié l'idée de commencer à faire hurler une chanteuse, juste la faire parler, de la faire chuchoter, de lui faire des intervalles d'une difficulté énorme. Et en même temps, il y a un lyrisme et une poésie dans le texte de Altenberg qui s'appelait Richard Engländer normalement, mais son pseudonyme était Altenberg.
Alors pour vous conseiller de ne pas avoir emmené tout l'opéra, Pablo, on parlera opéra dans la suite de l'émission. Pour le moment, place à la musique.
Yeah. L'instant 2, par Mélanie Masson, sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
On vient d'entendre une musique choisie par Pablo Volo, l'invité du jour de l'instant 2. Merci Pablo pour ce choix musical. C'est original, hein, très court pour un morceau d'opéra.
Oui, c'est Altenberglied, c'est toutes des cartes postales. C'est des poèmes très très courts. Et l'idée pour Berg, c'était d'essayer de créer dedans le plus possible de différences qu'on puisse mettre pour la voix. C'est pour ça que là, vous avez entendu des intervalles terribles, en même temps
une fin où la voix est complètement
oui,
suspendue,
c'est,
très
c'est un
aiguë.
Intervalle, ça doit être une neuvième à peu près. Et des chuchotements, du Sprechgesang, c'est-à-dire du chant parlé. Et le poème, il est très court. Elle ne fait que répéter les deux, trois premières vers du poème de Altenberg.
D'ailleurs, vous êtes en train de vous mettre vraiment à l'opéra, hein, à la mise en scène de l'opéra. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui vous intéresse de vous sentir?
L'opéra, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Quand
je serai grand.
Quand un jour, je serai encore plus grand. Et je sens pour moi l'opéra est vraiment la forme d'art la plus complète, la plus complexe et la plus codée. Et
la moins accessible ou pas, finalement,
non,
pour le
pas
spectateur?
Non, pas du tout. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Chacun y retrouve quelque chose. Mais il y a tout dedans. C'est la seule forme d'opéra qui existe de partout dans le monde. On a construit des opéras de Sydney jusqu'en Amérique du Sud pour amener cette forme d'art. Mais elle reste la plus codée, ça c'est sûr. Et pourtant, chacun sait ce qu'est une opéra. Chacun peut s'imaginer quelque chose quand on lui dit comment tu imagines peut être faite une opéra. Il y a des opéras très très différentes. Il ne faut pas oublier que à peu près 80% des grands opéras aujourd'hui sont perdus. Nous entendons aujourd'hui dans les opéras à peine 20% du répertoire qui existe depuis 1600. Donc ce que passe tout le temps à l'opéra, c'est des choses qui ont été faites des centaines, des milliers de fois. Il y a énormément d'œuvres qui n'existent plus. Il y a un répertoire énorme d'opéras contemporaines qui est joué très rarement, juste une ou deux fois. L'opéra est un genre énorme. L'opéra est musique, est théâtre, est mise en scène, tout en même temps.
Mime aussi, presque. Hein?
Oui, les mimes.
Les mimes.
D'ailleurs, au Théâtre de la Scala, il y a même encore un corps de mime attaché comme un corps de ballet. Il y a une vraie expression dans la totalité de l'opéra.
C'est tout ce qui réunit votre parcours, finalement, un peu, non, l'opéra? Ça peut réunir beaucoup de choses que vous avez expérimentées comme discipline artistique.
Oui, ça en réunit pas mal, oui.
C'est la raison pour laquelle vous voulez vous diriger là-dessus, ou c'est vraiment plutôt une passion qui vous
tient
depuis des
années? Non, c'est une passion que j'ai eue depuis toujours. Et même l'opéra classique, j'ai eu maintenant quelques expériences. J'ai travaillé avec l'ensemble séparé ici à Marseille, avec qui on a fait une forme d'opéra de chambre l'année dernière. Je vais travailler avec l'ensemble Concerto Soave sur une opéra baroque encore cette année. Et oui, évidemment, pour moi, un jour pouvoir diriger ou même juste être assistant d'un grand metteur en scène sur même du mélodrame classique, même du grand Verdi, du Puccini, ce serait, ou du Bellini, ce serait magnifique. Il y a tellement de choses qu'on peut en sortir d'une opéra classique pour la rendre encore une fois moderne, pour raconter quelque chose qui en sort. La Traviata, on pourrait la rouvrir encore dans tellement de formes différentes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, ça a été fait des centaines de fois déjà.
L'appel est lancé. Pablo, moi j'ai une surprise pour vous aussi. Dans cette émission, on donne la place à l'inattendu. Vous m'avez apporté un morceau que je ne connaissais pas d'avance. Et moi j'ai un son de quelqu'un qui vous connaît. Et à cette personne, je lui ai demandé de parler de vous. On écoute et on réagit ensuite.
Parlez-moi de lui, comme si c'était la première fois.
Pablo Volo, le funambule. La première fois que j'ai entendu la voix de Pablo, j'étais seule dans la suite d'un hôtel magnifique de l'avenue Junot à Paris. Je regardais pour la 30e fois C'eravamo tanto amati, un des grands chefs-d'œuvre de Ettore Scola. Je cherchais un funambule. C'est des trucs qui arrivent parfois dans la vie, chercher un funambule. Pablo m'a appelé. J'ai entendu son accent italien. On a parlé de scuola. Il m'a dit « C'eravamo tanto amati dans une mauvaise image de Rome. » Alors je lui ai demandé « Tu n'aimes pas ce film ?» Et il m'a répondu « Je l'adore ce film. » La première fois que j'ai vu Pablo, c'était un soir. Il avait cuisiné des artichauts à la romaine. Ils étaient divins, ces artichauts, alors j'ai demandé Pablo en mariage. Il n'a pas voulu de moi. Les artichauts m'ont rendu malade. J'ai passé une nuit épouvantable. Pablo avait raison, on ne pouvait pas se marier. Pablo est devenu un ami. Pablo, c'est la magie du cirque, le faste d'un opéra allemand et l'Italie des plus grands artistes. Tout ça à la fois. Pablo est un prince italien comme le fut Visconti. Exigeant, sensible, troublant, fougueux et élégant, comme Visconti. Pablo a le cœur fragile, Pablo aime les lys. Pablo a un bureau à lui dans un bar de Marseille. Il n'y a que Pablo pour aimer Ludwig, ce film qui dure presque 5 heures. Pablo est généreux, Pablo est fou. Pablo est drôle et touchant tout à la fois. Pablo est une merveille sur un fil.
Roxana Nadim, qui a bien voulu se prêter au jeu de cette première édition de l'Instant 2 de Parlez-moi de lui, qui vous décrit Pablo comme un prince italien. Je vois Pablo se décomposer, qui n'était pas au courant de ce témoignage. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous
hein. Ça me va, c'est toujours très flatteur. J'ai toujours un tout petit peu des problèmes quand j'entends des choses trop flatteuses sur moi, mais ça c'est normal, c'est pour...
Il y a des gens qui n'aiment pas les compliments. Vous n'aimez pas les compliments?
Je me pose beaucoup de questions sur le... Évidemment, je suis très touché. Je suis très, très touché par ce qu'il dit, mais il faut faire attention parfois à comment on les prend, comment on arrive à les gérer. Et je me découvre parfois dans une grande fragilité à ne pas savoir bien intégrer ce que les gens me disent autour de moi. Et parfois, ne pas être capable de vraiment renvoyer cette image ou de la porter ou de l'assumer.
Vous vous retrouvez?
Évidemment, je sais qu'il y a une certaine facilité à porter une image flatteuse si on vient de différents pays, si on est toujours l'étranger, un peu le prince charmant qui arrive. Il y a une certaine facilité dans ça.
Ça, c'est
parfois,
l'accent italien.
Oui, non, évidemment, oui. Parfois c'est un tout petit peu agaçant. Je ne le dis pas du tout vis-à-vis de Roxane. J'ai trouvé son compliment très touchant parce qu'en plus, on a eu la chance de se connaître d'une manière assez touchante.
Vous retrouvez dans son portrait? Est-ce que...
Il me fait très plaisir et c'est une très belle partie dans un miroir qui me reflète. Il y a d'autres choses que je vois de moi et dont elle n'a pas besoin de les voir, qui me flattent un tout petit peu moi et que je ressens derrière tout ça. Mais
c'est un espace de sensibilité. Voilà. C'est un regard sur quelqu'un d'autre et au demeurant sur vous aujourd'hui. Voilà, c'était une petite surprise. On va continuer. J'ai des questions encore à vous poser, Pablo. Vous êtes d'une famille d'artistes, si mes informations
oui.
sont bonnes.
Oui.
Et votre papa, notamment.
Mon père est peintre, oui.
Connu en Italie.
Il est plutôt connu.
Plutôt
oui.
connu. Est-ce que c'est une filiation difficile à porter quand on est soi-même artiste? Parce qu'on se construit quand même toujours par rapport à sa famille, même
on
si
se
c'est...
construit toujours par rapport au modèle
pour
qu'on trouve sur son chemin. Et évidemment, ça n'a pas été toujours facile. Mais franchement, il n'y a personne qui m'a autant poussé et autant aidé comme mes parents. Qui m'ont autant donné des coups de pied aux fesses pour partir de l'Italie, pour aller découvrir le monde. Donc cette petite difficulté, cette petite frustration d'être deux artistes dans la famille, franchement, ça en vaut la peine.
Et justement, de partir de l'Italie, vous êtes de Rome.
Oui.
Ça, c'est l'origine de base. Entre Rome et Marseille, est-ce qu'il y a des liens que vous faites aujourd'hui? Vous vivez à Marseille depuis longtemps, entre ces deux villes, entre l'Italie et la France. Vous avez aussi vécu dans beaucoup d'autres pays. On se sent multiculturel quand on est un personnage qui grandit en Italie, voyage en Allemagne, vit en France. Enfin, comment on gère tout ça sur les questions de aussi de représentation finalement et d'identité.
Bon, moi j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me trouver l'identité que je voudrais affirmer. Avant, j'étais longtemps très fier d'être moitié italien, moitié allemand. Maintenant, franchement, je m'en fous un peu. J'aimerais bien... J'ai découvert que j'ai énormément envie d'assumer ma langue d'usage principale, qui est le français. Et je me sens très français, j'ai envie de vivre dans ce pays. Et c'est un pays où je vais voter pour les municipales, c'est un pays où je me sens beaucoup plus engagé, j'écris beaucoup plus en français que dans les autres langues. Ça veut dire que je fais partie de ce pays-là.
D'ailleurs, la petite anecdote que vous racontiez sur le fait que quand on vous croise, quand on vous rencontre, on va leur dire « Ah, vous avez un bel accent, vous êtes italien, vous avez envie de vous en défaire de cette carapace-là, finalement, cette image ?»
J'aimerais énormément mon pouvoir de faire et pouvoir la sortir quand cela serait juste un choix. Une chose, c'est si quelqu'un, au bout d'une conversation déjà engagée, à un moment donné, demande d'où vient mon accent, ça me va très très bien. Ça veut dire qu'il y a la curiosité de vouloir savoir d'où vient la personne. Mais si on demande juste d'où vient mon accent, juste quand on me demande une cigarette dans la rue et je n'ai même pas encore ouvert ma bouche, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est accroché à moi comme mon ombre, qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qu'on a tout de suite besoin de savoir d'où il vient. En plus, un accent, d'où est-ce qu'il peut venir? Il ne peut que venir de là où je suis là maintenant. Enfin, mon accent, il n'est pas... Il est là avec moi, il est arrivé à la gare de Lyon avec moi. Il n'est pas non plus... Je ne l'ai pas créé, je ne l'ai pas transporté.
On sent que ça vous travaille quand même un petit peu.
Bon. Je ne pense pas, en tout cas, que dans d'autres pays, on demande autant les accents comme aussi en France.
Qu'en France.
Ça, je trouve un tout petit peu quelque chose de très typique ici.
Dans la prochaine émission de l'Instant 2, on parlera identité. Donc je pense qu'on abordera ces sujets-là. Je vous propose une pause musicale à présent, assez courte, une musique que moi-même j'ai choisie. Cette fois, ce n'est pas Pablo. C'est du groupe Elephant, un duo londonien. Et ça s'appelle « I Think I Love You ».
When you eat strawberry because you're happy, I hate you when you play video games because you're floppy. Oh, 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 I think I love you. Oh, 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 I think I love me. I need you for scratch my arm and get my beefsteak. I want you to play violin more than Bob Dylan. Oh, 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 I think I love you.
D'être à l'écoute de l'Instant 2 aujourd'hui avec mon invité Pablo Volo. Un autre concept de l'émission où je propose une petite interview mitraillette, comme on peut les appeler. Une interview si vous étiez.
Si vous étiez.
Alors si vous étiez, Pablo, il se met tout droit sur sa chaise. Si vous étiez une autre personnalité. Je rappelle que le principe, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer pourquoi vous donnez cette réponse. Voilà. C'est selon votre envie du moment. Alors, une autre personnalité ou un personnage célèbre, le premier qui vient à l'esprit comme ça. Vous avez droit à un joker pendant l'interview.
Alors, une autre personnalité, je la cherche depuis longtemps.
Vous êtes plusieurs dans votre tête, Pablo.
Ah oui, on est vraiment beaucoup, on est vraiment beaucoup, mais c'est promis, on la cherche.
D'accord, vous me rappellerez pour, hein, d'accord. Un film, si vous étiez un film.
Mais si j'étais un film, je pense que je suis la ricotta de Pasolini. Mais là aussi, j'aimerais bien changer.
D'accord. Une ville.
Budapest.
Une explication peut-être pour... Non.
Oh, ça fait...
Vous connaissez Budapest, vous êtes déjà allé?
Ça fait un an que j'y vais régulièrement pour donner des stages. Et là, je viens d'en lire un livre sur la ville et je suis vraiment tombé amoureux. Il y a un travail photographique que j'ai fait en ce moment où il est question de Budapest. Et c'est vraiment une ville qui commence à me plaire énormément.
Quel livre vous êtes en train de lire en ce moment?
Budapest.
De
Je ne me souviens plus le titre, c'est un grand chansonnier brésilien.
D'accord, ça a l'air bien, c'est beau comme livre.
C'est magnifique.
Conseiller. Je chercherai, je mettrai sur la page de l'émission le nom de l'auteur. Un tableau, si vous étiez un tableau, Pablo. Vous m'aviez raconté une histoire sur un tableau de Caravage.
Alors,
j'aimerais bien que nos auditeurs la partagent, cette histoire.
C'est un tableau qui est ici à Marseille, au Musée des Beaux-Arts.
Qui a ouvert récemment.
Et ça a été une des toutes premières choses que je savais de Marseille avant de venir vivre ici. Je savais qu'il y avait 7 copies du tableau du Caravage, c'est l'extase de Sainte Madeleine. Alors, pour la petite histoire, le Caravage, dont on sait qu'il avait probablement tué quelqu'un qui a été en fuite de Rome, il a porté en fuite avec lui ce tableau, on ne sait pas exactement pour quelle raison, et c'est un tableau magnifique de l'extase de Marie-Madeleine. Et c'était la première fois qu'on montrait l'extase d'une manière aussi sensuelle, aussi avec une charge érotique aussi forte. Le tableau a été retrouvé une dizaine d'années après la mort du Caravage, et ensuite il a à nouveau disparu. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement s'il est gardé ou pas dans une collection privée à Rome. Ce qu'on le sait, c'est qu'il y a une copie qui a été faite par un peintre flamand, et cette copie, elle est ici au musée de Marseille. Et c'est la plus belle copie qu'il y a de ce tableau du Caravage. Donc j'invite
elle
tout le monde d'aller la voir, cette extase.
Qui est beaucoup plus érotique que religieuse. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs, je pense.
Oui, il a dû juste rajouter un crucifix tout en haut à gauche. Mais
histoire
ça, c'était juste histoire de ne pas faire vraiment du Caravage. Mais...
c'est ça, histoire de... Si vous étiez un vêtement, Pablo Volo.
Je serais une cravate.
C'est vrai?
À poids.
À poids?
Oui.
Pourquoi?
À poil, à
poil. Oui. Ça peut être un vêtement, par ailleurs, hein. le nu. Enfin, je
oui,
dire,
c'est,
Yves
ça
Saint-Laurent
peut être...
disait
non, mais
que c'était le plus beau vêtement pour les femmes.
Ça lui appartient.
Une cravate
oui,
à
moi,
poids.
Je serais une cravate, je pense.
Un autre métier, vous me parliez de chef d'orchestre, si vous étiez. Est-ce que ce serait le métier que vous choisiriez?
Oui. Mmh. Oui, vraiment.
Peut-être un jour, hein. Rien n'est perdu.
Rien n'est perdu.
Une photo, Pablo, que vous pourriez décrire à l'antenne pour qu'on l'imagine.
Alors, je pense une photo, celle de Michael Dean qui montre... c'est une très très belle photo avec dessous écrit « This photograph is my proof ». Cette photographie est la preuve. Et c'est un autoportrait magnifique de lui posé sur un lit derrière des coussins avec une femme qui l'enlace derrière. Et c'est une très très belle photo parce que tous les plis du matelas vont très lentement vers ce couple. Et on ne pourrait pas dire que ce soit un couple vraiment amoureux. Il y a énormément d'affection, il y a énormément de tendresse entre les deux. Mais il y a aussi une grande joie qui sort d'eux. Tous les deux sont vraiment posés dans le centre, en plein dans la lumière, devant un mur blanc. Et le lit est tout mis en avant. Et cette image... assumé comme un autoportrait et comme un regard d'un instant qui n'existe plus, d'un instant qui est mort dans le passé, dont il fait un tout petit peu le deuil en voulant dire voilà ce qui est une photographie, voilà ce qu'on peut prouver qu'un moment a existé.
Et c'est capter l'instant. Finalement.
Oui, c'est ça. Ça m'a énormément appris sur comment on peut faire des autoportraits, ce qui est mon travail en ce moment principal. De comment l'idée, c'est de se mettre face à soi-même d'une autre manière qu'on ne peut pas faire devant un miroir, qu'on ne peut pas faire avec un public. C'est une manière de laisser tout un coup transpirer une image qui nous saisit dans un moment donné et qui nous révèle quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à comprendre.
Une dernière question, c'est si vous étiez un texte, je demande à mon invité d'amener un texte à chaque fois. Vous avez pu préparer ça, Pablo ? Si vous désirez le lire, c'est le moment.
Alors, j'ai une énorme affection pour Lorca. Lorca nous accompagnait à notre compagnie pour pas mal de temps. Et on a fait un spectacle plus sur lui que sur ses poèmes. Et ça a énormément bouleversé toute notre manière de travailler. L'idée de vraiment créer un langage commun entre nous, d'entrer dans la poésie, d'entrer dans les interstices entre un personnage et ce qui est le produit de ce personnage, c'est-à-dire sa poésie. Et je ne le connaissais pas assez avant de commencer le travail que j'avais fait sur lui. Et je suis ravi d'être entré autant dans ce personnage. Et par hasard, il y a quelques semaines, une très bonne amie m'a fait découvrir ce poème que j'avais lu juste de manière assez rapide dans le temps. Et qui est quelque chose qu'il avait écrit quand il était à New York. Et est un peu un regard très mélancolique sur l'Europe. Et je trouve que il y a énormément de choses dedans. Il y a aussi un tout petit peu de choses qui ont recroisé quelques voyages que j'ai pu faire moi-même, dont
je vous écoute.
La petite valse de Vienne. Prends cette valse, mon amour, et serre les dents, parce que je t'aime et te désire. Pendant que les enfants jouent sur les vieilles armoires de Hongrie, mouton noir et Edelweiss. Sous le silence obscur de ton front, prends cette valse, mon amour, et serre les dents. La valse de Vienne ne s'arrête jamais. Sous les embruns de ton masque inondant les rives et les jacinthes d'eau. Alors je retire ma bouche d'entre tes cuisses, mon âme est un nénuphar photosensible. Dans les soubresauts étranges de ta chute, je vais partir, mon amour, mon tendre amour, et je pleure les violons d'autres tombes. Et l'écho de ta valse, l'écho de ta valse.
Federico García Lorca, au micro de Grenouille, et à la voix de Pablo Vodo, l'invité de l'Instant 2. Merci. On enchaîne avec une chronique complice que vous retrouverez chaque mois, soit par Lauriane Toulemont, soit par Romain Mathieu. C'est la chronique décalée. Décalée.
Décalée.
Décalée.
Chronique.
Chronique.
Décalée.
Décalée.
Chronique décalée.
Chronique décalée. Délie-moi ta langue. Et je te dirai qui tu es. Non, impossible. La langue, la plus grande des frontières ? Non plus. D'autres incompréhensions minent le lien social entre les citoyens du monde. Mais elle est parfois utilisée comme arme d'une efficacité indéniable pour éliminer un peuple. Au Tibet, les enfants ne sont autorisés à apprendre le tibétain que quelques heures en primaire. Ensuite, fini. Si tu ne parles pas tibétain, peux-tu te revendiquer de ce peuple de l'Himalaya ? Oui, ton langage est là. Ton visage, ton corps, tes gestes. Tout ce dont ta matière grise infantile a été imprégnée, absorbée, tout est là. Caché dans un inconscient immémoriel, regarde-toi, regarde en toi, et là tu t'exprimeras. Lance, danse, crie, respire. Nous te comprendrons d'où que tu viennes. Alors ne te cache pas, s'il faut pour cela que tu te déguises ou que tu sois nu sur scène, aucun obstacle ne parviendra à brimer ton aveu le plus profond, celui de ton essence. Ton mantra. Je sais bien que l'exhibition interne n'est pas un chemin possible pour qui voit sa langue suspendue dans les interstices politiciennes machiavéliques. Anonyme, tu sais bien que ce n'est pas en te forçant à apprendre une langue qui n'est pas la tienne que tu vas arrêter de l'avoir bien pendue, quitte à finir la corde au cou. Danger manifeste que de parler un dialecte interdit. Quelques phrases ont fait trembler des léviathans. Rappelle-toi encore et encore ce que disait ce Léo. Se ferrer. Des armes et des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Puisque les barrières sont faites pour être brisées, l'anarchie poétique teintera ton être de sa puissance. Prends garde cependant au double tranchant de ta langue aiguisée. À force de profaner des vérités, en faisant vibrer les cordes vocales de la haine, la réalité sera marquée à tout jamais. Communicant, cesse donc de jouer avec des nuances qui ne t'appartiennent pas. Tes gros titres racoleurs et mal traduits ne tuent pas. Personne. Laisse donc la place à ceux qui, dans un alphabet ou un autre, chargent leur être d'une volonté qui les dépasse et pourtant n'appartient qu'à eux. C'est leur instant, leur voix, leur vie. Charmeur de serpents médiatiques et professionnel de l'embobineuse, votre langue de bois n'est que l'arbre politique qui cache la forêt de votre incompétence. On ne sait quel dieu a fini enfin par envoyer à tous une nouvelle forme de langage, Internet. Chacun dispose désormais d'une novlangue libératrice pour inscrire noir sur blanc le sombre comme l'éclatant de l'humanité. Le pouvoir a changé de main, l'informaticien est le nouveau traducteur par excellence. Maîtriser le Java et le PHP permet aujourd'hui de diffuser un discours que les gouvernants ne peuvent réprimer à coups de barricades, de casques et de matraques, de bombes lacrymogènes, voire de balles réelles. Car nous sommes ici dans le virtuel à égalité.
Décalé.
Décalé.
Chronique décalée.
Chronique décalée.
C'était la chronique décalée de l'instant 2 de Lauriane Toulemont, Pablo Volo, l'invité de l'émission. Une réaction sur le langage, la langue. Hein, elle développe beaucoup de thèmes assez politiques et engagés. Une réaction à chaud ?
Elle développe beaucoup de thèmes à une grande vitesse. C'est pas facile. c'est un tout petit peu trop rapide pour moi. Et je réagis sur ce fait d'Internet. Je trouve ça fascinant qu'il n'y a, par exemple, pas du tout la possibilité encore de faire bien traduire un texte sur Internet. Je trouve fascinant que dès qu'on met un texte pour le corriger dans Internet, il y a toujours encore des fautes de grammaire dedans, alors que quelqu'un qui connaît bien l'orthographe, on en trouvera encore toujours. Je trouve fascinant que la langue encore reste quelque chose de tellement mystérieux, tellement difficile, alors que les ordinateurs Internet peuvent faire des calculs énormes, mais ça, ils n'arrivent pas toujours pas à traduire.
En parlant de langue et de langage, justement, vous qui parlez quatre langues, c'est ça ?
Cinq.
Donc vous êtes polyglotte. Il paraît que c'est à partir de cinq langues.
Ça paraît à partir de cinq langues, oui.
Est-ce qu'on est... Vous êtes porteur de quelque chose et la langue, c'est une complexité pour vous ? C'est quelque chose, parce que vous jonglez du coup de l'italien au français, en passant par l'allemand, l'anglais, le néerlandais. Qu'est-ce que ça signifie là, par rapport à la chronique de Lauriane pour vous ? Le langage ? Enfin, la langue ? Plus particulièrement, pas le langage.
Ça signifie que soit on fait tout le temps un grand mélange, soit on choisit clairement sur quelle langue on veut se tenir, on essaie de bien les maîtriser entre les langues.
Mixité ou pureté, ça ?
Oui, mais il y a une beauté dans la pureté, justement pour mieux saisir le bon moment dans lequel on fait sortir des mots dans une autre langue. Je commence à travailler maintenant pour un stage que je donnerai le mois prochain ici à la Friche sur les langues, le lien entre les langues et le corps. Ça s'appellera le corps polyglotte. Et justement, on travaille beaucoup sur l'idée de comment on peut traduire une phrase, comment on peut la traduire plusieurs fois et comment on peut la enfin transposer dans le corps, comment le corps peut se prendre tous ces interstices différents que les mots n'arrivent pas à dire.
Pardon Pablo, sur la langue et le corps, j'ai sous les yeux un livre assez connu qui est Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes et j'ai pris une petite citation de ce livre, il dit « Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre ». Qu'est-ce que... Une réaction face à cette citation de Roland Barthes ? Est-ce que vous l'envisagez comme ça, dans vos spectacles notamment ? Que le corps se frotte finalement contre, d'une manière ou d'une autre contre celui du spectateur et s'exprime de cette manière-là ?
Oui, ça c'est très beau, ça je l'avais...
Vous l'aviez pas
c'est vraiment
ça.
Quelque chose de cet ordre-là, c'est... Et c'est ça le moment où les choses commencent après à devenir vraiment magiques, quand on touche quelque chose qui est vraiment rugueux, quand on a les bons mots et on arrive à créer une émotion. Pour quelle raison on arrive à créer aussi une émotion avec le corps? Et quand on arrive à lier les deux choses, qu'on arrive vraiment à trouver un mouvement ou un ensemble de mouvements ou une relation entre deux mouvements, ou encore mieux, une relation entre un mouvement qui suit des mots qui passent en même temps, comme des sous-titres qui rentrent l'un sur l'autre, comme des descriptions ou quelque chose qui relève l'un sur l'autre. Cet moment-là, cette instance aussi rugueuse qui se frotte, là, oui, là, il y a vraiment quelque chose qui est ce qu'on appelle, un très bon ami à moi, metteur en scène, appelle la chose, cet moment d'émotion qu'on n'arrive pas à décrire et qui reste en nous et qui nous transporte.
Une réponse très courte à cette question. Est-ce que parler, c'est toujours trahir ? Pablo Volo.
parler, c'est toujours trahir, je pense, oui. Et c'est une très belle affirmation. Et il ne faut pas prendre le trahir comme une trahison, il faut le prendre comme quelque chose qui...
On se révèle.
Qui révèle, qui garde clairement, qui dit beaucoup plus de ce qu'on imagine. Que notre organe, la langue, quand elle parle, elle va plus vite de ce qu'on imaginait, qu'elle nous dépasse. Et ce n'est pas une trahison, encore une fois, qui est le contraire du silence.
C'est une trahison de soi.
C'est une trahison de soi, c'est un miroir. Et tant mieux que ce soit ainsi, tant mieux que quand on parle, on trahit ses origines, tant mieux que quand on parle, on se dépasse. Et tant mieux qu'on ne soit pas non plus tout le temps dans une vérité absolue, mais dans quelque chose qui entoure les choses et qui les garde. Après, pour la vérité, et pour les moments beaucoup plus profonds, il y a le silence qui nous tient.
Une spontanéité. Justement, en parlant de voix et d'expression, il y a des cours à Marseille qui sont donnés d'improvisation vocale. Nawal et Caroline, nos reporters, sont allés sur le terrain pour assister à un de ces cours. C'est le moment reportage de l'Instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2.
Reportage.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Déborah Nabé, chanteuse et intervenante à la Maison du Chant, pour un atelier d'impro vocal. Déborah Nabé, bonsoir.
Bonsoir. Donc vous allez participer à un atelier d'impro vocal. C'est un atelier d'exploration vocale. On explore la voix sous toutes ses formes. Voix parlée, voix chantée, bruit bizarre, texte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Du rythme, beaucoup de rythme, du beatbox quelquefois. Et on explore la voix en dehors d'un répertoire, justement. C'est plein de jeux vocaux et du chant spontané.
Jeux vocaux, évidemment, mais corporels également, Déborah ?
Oui, tout à fait, c'est très lié. De toute façon, il y a toujours un échauffement assez long. C'est un travail sur le corps, le souffle, et après sur la vibration, sur les différents endroits où vient se loger le son dans le corps, grâce à des vocalises, grâce à là aussi des divers jeux. Il y a même des jeux avec des déplacements dans l'espace, avec des duos, et avec le contact avec le corps de l'autre, pour entendre où le son vient résonner, vibrer. Et pour mieux aussi ressentir du coup ce qui se passe dans notre corps quand on chante.
Donc on veut dire que finalement son et corps, et il y a une notion de thérapie assez forte.
Alors non, moi je la mets pas. En tout cas la thérapie dans mon cours, c'est vraiment un moment de détente pour travailler aussi la musique, le rythme, l'harmonie, la rencontre avec les autres, avec la musique des autres, parce qu'on a tous des origines musicales différentes, des influences différentes. Mais par contre, je sens en discutant avec les personnes que ça peut servir pour certains de thérapie. Il y en a qui viennent chercher ça, mais moi en aucun cas je ne vais offrir de la thérapie. Si ça peut servir à des personnes, tant mieux. Mais de toute façon, la musique, le chant, le rythme, c'est ça quoi. C'est un moment de partage, de détente, et qui des fois va plus loin que ce qu'on est venu chercher.
Donc thérapie peut-être pas, mais en tout cas d'énormes bénéfices à la sortie et un épanouissement d'après ce que je comprends. Voilà, mais en tout cas merci beaucoup pour ce petit entretien et en piste.
Allez, en piste, c'est parti. Encore un peu.
D'abord, c'est l'échauffement. Exercice de sound painting. Certains participants s'improvisent chef d'orchestre et à chacun de leurs gestes correspond un jeu vocal. Et pour finir, improvisation totale d'un quatuor qui se fait et se défait en fonction des envies.
Thank you.
L'instant 2.
L'instant 2.
Par Mélanie Masson sur Radio Grenouille. Vous venez d'entendre le reportage de Nawal et Caroline sur ses cours d'improvisation vocale. Pablo Volo est toujours avec moi dans ce studio. L'improvisation, quelle part donnez-vous à l'improvisation dans votre travail et dans vos spectacles, Pablo?
C'est la partie principale pour le moment des créations, des recherches. On se donne un thème, on se donne une grille de travail, on se donne certaines contraintes, mais le geste dans son improvisation, dans sa spontanéité, est notre recherche principale. C'est comme ça qu'on commence à construire une suite de mouvements. Après, on met ensemble différentes suites de mouvements et ensuite tout ce vocabulaire, petit à petit, devient une chorégraphie, devient quelque chose qui amène son sens. Mais l'improvisation reste vraiment l'endroit spécifique.
Pour la création.
Oui, il y a vraiment un training pour arriver à se vider la tête, arriver à sortir des chemins le plus connus, à ne pas faire tout le temps les mêmes gestes. L'art gestuel est quelque chose de très particulier. On fait très rapidement tout le temps les mêmes choses. On n'a que deux bras et on est tout le temps debout sur ses jambes. Donc, ce n'est pas facile. Soit on se met tout le temps à courir, soit on commence à pédaler les bras en l'air, soit on ne sait pas du tout quoi faire.
Vous faites souvent ça, pédaler les bras en l'air? Oui, une façon
pour
de parler.
Pour dire,
oui.
Ventiler les... Et il y a vraiment des conditions, il y a vraiment des trainings pour voir est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas commencer par mon coude à le faire en 8. Donc, c'est dans quelques images qui commencent après à nous pousser dans des endroits où on n'a jamais été. Et c'est très, très fort quand on se sent vraiment perdu, quand on a vraiment l'impression, justement, c'est comme la parole qui trahit, quand on commence à se trahir, quand on commence à sortir de quelque chose qu'on pense connaître, c'est là que tout d'un coup, parfois, on trouve des choses vraiment intéressantes. Très souvent, des choses qui ne fonctionnent pas du tout, qui ne sont pas belles, et c'est là que tout d'un coup, une sincérité énorme sort.
Cette inquiétante étrangeté, est-ce que c'est ce que vous faites, vous proposer des stages régulièrement avec votre compagnie Exvotos? Est-ce que vous essayez d'aller trouver chez les gens?
Oui, je donne régulièrement des cours. On organise tous les 3 mois des stages dans un network européen qui s'appelle Circonnection. Et ça, c'est un peu la base de notre travail. On part sur l'improvisation. Évidemment, la chose la plus importante, c'est de tenir les gens très à l'aise, qu'ils aient vraiment envie de chercher, de découvrir quelque chose, qu'ils soient très, très à l'aise aussi à faire quelque chose qui soit banal, qui ne soit pas du tout séduisant tout de suite, qu'ils aient surtout le courage de faire quelque chose de terriblement pathétique. C'est là, parfois, que... Oui, c'est... Dans le travail actorial, c'est pas du tout facile. Moi, j'ai mis longtemps, par exemple, à découvrir le plaisir de pouvoir se mettre tout nu sur scène.
Et c'est une révélation. Merci, Pablo.
Oui, dépasser cette gêne, dépasser la gêne qu'on peut avoir, faire vraiment quelque chose qui nous gêne, ça nous amène parfois à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. J'ai dit la nudité pour amener un exemple. Ça pourrait être autre chose. Si la contrainte était de dire ou de faire quelque chose qui soit vraiment gênant, de se mettre dans une situation terriblement gênante, que ça déjà est quelque chose qui nous amène sur un chemin inconnu.
Un chemin inconnu et différent. On va finir bientôt cette émission. L'heure est déjà passée avec vous. Pour l'actualité, en mars, donc ce mois-ci, on rappelle le festival Mars en Baroque, musique, cinéma, art visuel, théâtre, conférences, gastronomie. Ce sera la 12e édition de Mars en Baroque qui se présentera comme un cabinet de curiosité où il y aura beaucoup de choses inconnues, rares, du patrimoine et évidemment du baroque. Vous avez un spectacle, Pablo?
Oui, nous,
avec
on va jouer le dernier jour avec notre compagnie le 29
mars, oui.
Au 21h30 sur un grand buffet baroque festif qui sera fait au Grand Table.
À la Friche, la Belle de Mai. Une dernière question, c'est ma dernière minute avant la fin du monde. Est-ce que vous pouvez me raconter très rapidement la chose la plus folle que vous ayez fait par amour?
La chose la plus folle que j'ai fait pour amour, Elle est énorme, mais ça ne peut pas se raconter à la radio, mais je promets qu'elle est énorme.
Alors, hors micro, merci beaucoup Pablo Volo d'avoir été à mes côtés. Le temps passe vite avec vous, je rappelle le prochain spectacle, 29 mars. Merci à mes complices, chroniqueurs et reporters, Lauriane Toulemont, Nawal et Caroline, ce mois-ci. La prochaine fois, dans un mois, ce sera Romain Mathiot et Lauriane Morel. À la réalisation de cette émission, le fidèle et généreux Sébastien Gély. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, oui, je sais, c'est long, pour une nouvelle édition de l'Instant 2. Samedi 12 avril, même heure, même endroit, nous parlerons cette fois-ci non pas de lui, mais d'elle. Je vous prendrai par la main pour vous emmener à la rencontre de Camille Rossa et Emma Lebeau, deux jeunes réalisatrices d'un web-documentaire qui porte le doux nom des rêves d'en face. Nous voyagerons de Chypre à la Bosnie, en passant surtout par Belfast, en Irlande du Nord. Je compte sur votre écoute. Et n'oubliez pas, il faudrait essayer d'être heureux, au moins pour donner l'exemple. Allez, je vous embrasse. Au mois prochain.
Toes, coats hanging, sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shorn, beat down on bony backs, so far from home where the ocean stood, down dust and pine cone tracks. We slept like dogs down by the fireside, awoke to the fog, we're all around us, the boom of summertime, yeah. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang.